Koh-Lanta, les 4 terres, épisode 6. Bienvenue à tous, je suis Damien et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Autour du Feu. Avec moi, donc, 3 intervenants. Il revient encore là cette semaine pour faire le Kikadi et plein d'autres choses, plein d'autres bonnes blagues. C'est Freeze. Salut Freeze.
Oui, c'est moi, Jean Roucas, enchanté. en moins raciste.
Oui.
Bonjour bon. Tout le monde.
Bon, ça va, t'as aimé l'épisode?
Non.
D'accord, bah
c'est voilà. Pas du tout. Non, on va en reparler, mais non, j'ai pas trop apprécié.
Oh bah, c'est toujours un peu dans Koh-Lanta, dans la phase par équipe, toujours ce petit épisode de creux où il se passe pas grand chose et tout, mais c'est un peu notre truc, c'est que même quand il y a rien à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Avec nous aussi, on a quelqu'un qui vient pour la première fois de la saison, mais qui était déjà venu par le passé, qu'on est content de retrouver. C'est Clément. Salut Clément.
Salut.
Toi, c'est marrant, quand tu parles, on a toujours l'impression que t'es dans ton édredon, là que tu viens de te réveiller.
C'est parce que je suis toujours perdu dans mes pensées.
Bon, comment ça va toi? Est-ce que t'as aimé l'épisode?
Moi, j'ai bien aimé.
Ah oui,
je suis jamais d'accord avec Freeze, donc c'est normal.
D'accord, bah écoute, ça c'est bien, on va pouvoir en parler. Et enfin, elle aurait dû être là la semaine dernière, mais malheureusement, elle était malade. C'est une YouTubeuse, c'est une des rares femmes justement à prendre la parole sur Koh-Lanta, et du coup, on est très content de l'accueillir. C'est la YouTubeuse Félonie. Salut Félonie.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors toi, pareil, est-ce que tu as aimé l'épisode?
Pas du tout, comme Freeze, donc clairement, ah, ça va pas être terrible.
Là, 2-1.
Alors du coup, on va commencer tout de suite donc par débriefer un peu cet épisode avec cette longue, extrêmement longue épreuve de confort avec forcément les extraits des appels des proches.
Donc ça, j'ai pas aimé par contre.
Ouais. Donc là, en fait, l'épreuve en tant que telle, c'était porter des sacs au-dessus de la tête. Donc, et si une personne lâchait le sac, il y avait de l'eau qui s'écoulait dessus. Donc, l'épreuve a donc été remportée par les jaunes. Et alors ça, c'est une épreuve qu'on avait vue aussi dans Survivor, la saison 37. Est-ce que vous avez apprécié cette épreuve, Clément?
Bah, moi, je trouve l'épreuve intéressante en jeu. Si on était en jeu, par contre, à regarder, elle est un peu chiante, je trouve. Mais c'est bien que ça change de toutes les épreuves qu'on a, et je trouve qu'ils font un énorme effort là-dessus, en tout cas.
Freeze.
Ouais, je suis à peu près d'accord. L'épreuve en soi est sympa. Après, j'ai trouvé que ça s'attardait beaucoup sur l'épreuve. Enfin, j'ai trouvé le montage très long. Je sais pas si c'était juste pour meubler un épisode un peu creux ou si c'est qu'ils pensaient qu'il y avait vraiment une intensité de ouf. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grosse intensité, même si le principe de l'épreuve est plutôt sympa. Après, c'est pas inédit, hein. C'est des trucs qu'on a déjà vus, mais ça passe toujours. Mais j'ai trouvé ça très long. Je sais pas si c'est moi ou si... Il y a eu d'autres impressions comme ça, mais je me suis un peu fait chier, honnêtement.
En fait, c'est toujours la même action en fait, qui est montrée, genre quelqu'un qui passe un sac, quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui passe un sac, quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui se plaint, ouais, et voilà, on a rien d'autre. C'est plus plaisant de voir quelqu'un courir que quelqu'un qui fait ça, quoi.
Félonie, qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, c'est ça, c'est un peu chronophage, on voit toujours la même chose. Après, ça reste quand même une bonne épreuve, je trouve. On s'est pas trop ennuyé, donc bon, on va dire que c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que bon bah ils portent les sacs et on voit que ça quoi.
C'est après ouais c'est vraiment une épreuve de je dirais de résistance physique et il y a quand même beaucoup d'épreuves comme ça qui se basent sur les bras en l'air et sur la résistance justement avec les muscles qui tétanisent. Là on avait ça avec les avec le koala inversé, c'est le genre d'épreuves qui reviennent assez souvent et c'est vrai que ça c'est une épreuve qui va davantage réussir aux gens qui ont des bras plutôt fins qui vont tétaniser moins rapidement. Par exemple on se voit Alexandra qui tenait 3 sacs en l'air et qui avait le sourire encore. Bah, chez Alexandra, d'ailleurs, qui est extrêmement surprenante. On trouve que ce n'est pas quelqu'un qu'on attend forcément.
Impressionnant, oui.
Ouais, d'épreuve en épreuve, elle confirme que elle gère bien. Puis elle a une force mentale qu'on ne soupçonnait pas vraiment sur les premiers épisodes.
Mmh. Et elle a retrouvé sa voix aussi.
Aussi, ça aide. Non, pour finir sur l'épreuve, je pense que c'est une épreuve qui gagnerait à être mise en individuel. Je pense que ça gagnerait beaucoup en intensité. Oui. Alors évidemment, il faudrait revoir un peu le concept parce que là, l'intérêt, c'est d'être sur un truc collectif.
Il ne pourrait pas se passer les sacs en individuel, quoi.
Ouais, mais justement, l'aspect collectif là-dedans est un peu évaporé et je pense qu'en individuel, ça gagnerait vraiment en force parce que forcément, il y aurait une tension qui était un petit peu absente hier, en tout cas. enfin vendredi.
Féloni, toi, qu'est-ce que tu penses d'Alexandra, par exemple, de ses performances sur les épreuves? Est-ce que c'est un personnage qui te plaît, qui t'intéresse?
Oui, énormément, mais en même temps, je vois pas qui pourrait dire qu'Alexandra est nulle. Clairement, depuis le début, c'est une femme qui est très très forte, qui s'impose énormément comme étant un petit peu the goat, on va dire, en tant que femme. Mais c'est vrai qu'elle est très intéressante, Alexandra. Sa psychologie semble vraiment, comment dire, profonde, en fait. On voit qu'elle change vite un petit peu de mood, mais qu'au final, elle reste très focus sur les épreuves. Donc, je pense qu'Alexandra peut aller très, 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 très loin. Ce que je regrette un petit peu, par contre, c'est que, comment dire, je pensais qu'elle avait une sorte d'alliance avec Becca, mais au final, pas du tout, puisque Becca ne l'a pas choisie pour aller dans son équipe. Donc, je m'inquiète un petit peu pour la réunification. Est-ce que ça sent mauvais pour elle ou pas? Je ne sais pas.
Je pense que c'est plus de la sympathie l'un envers l'autre qu'une vraie alliance, mais ça peut marcher quand même à la réunification, à mon avis. On sentait que Becca était quand même assez attachée à elle et que potentiellement, je pense que s'ils se retrouvent, ça peut matcher et continuer un bout. Je suis assez d'accord avec toi sur Alexandra. Je trouve que son histoire est super intéressante. Au début, c'était un peu le bouc émissaire sur les deux premiers épisodes et puis elle a quelque chose de bien plus intéressant que ça, qu'elle prouve sur chaque épisode, chaque semaine. Et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va évoluer, si elle peut encore évoluer, ou si justement son arc narratif est un petit peu terminé, etc. Mais je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'elle va vraiment encore plus exploser. Je pense que ça peut être une winneuse. Elle en a le profil, en tout cas, donc ça va être intéressant.
Et si je peux faire un parallèle, bon, c'est un parallèle un peu obvious, mais elle me fait beaucoup penser à Julie, donc de l'île au trésor, si je dis pas de bêtises. C'est que c'est ce personnage un peu lunaire, un peu dans sa bulle, mais qui se retrouve être une compétitrice redoutable dans les épreuves statiques. Au terme de résistance à la douleur, et non, c'est, je pense que comme les gens, je crois que toi, Clément, t'avais beaucoup apprécié Julie.
Non, si. Non, j'aimais beaucoup Julie, j'aimais beaucoup le personnage de Julie, pas forcément la joueuse. Et Alexandra, je trouve que c'est un peu différent parce qu'Alexandra, elle n'est pas que bonne en statique. Elle est un peu bonne dans toutes les épreuves, en fait, mais peut-être plus en statique. Mais je pense que le parallèle est bien trouvé parce que oui, c'est un peu le personnage sympathique qui est un peu sur son étoile. Pour Julie, c'était les Disney, pour elle, c'est Wonder Woman.
Parce que donc, à la fin de l'épreuve, Adja dit avoir plus ou moins lâcher ses coéquipiers parce qu'elle ne voulait pas tout simplement appeler sa famille parce qu'elle pensait que ça la plomberait. Alors du coup, ça pose deux questions. La première donc que je vais vous poser, c'est si vous étiez dans une telle situation, enfin est-ce que vous prendriez justement l'appel aux proches ou est-ce que vous pensez qu'émotionnellement ça risquerait de vous plomber? Alors, on va commencer par Freeze.
Ça, c'est difficile. Hein. N'étant pas sur place, n'étant pas fatigué, n'ayant pas faim, parce que je viens de manger, donc tout va bien. C'est quand même compliqué de se dire je refuse, j'en ai pas besoin émotionnellement. Honnêtement, j'en sais rien. Peut-être là maintenant, je me dirais, bon, bah, je peux m'en passer, parce qu'effectivement, ça risque de m'affaiblir, un peu comme a dit Adja. Même si pour moi c'est une connerie de l'avoir dit à ce moment-là, mais c'est encore autre chose. Mais honnêtement, c'est impossible à dire. Je pense que concrètement, j'aurais plutôt envie de refuser, mais sur place, avec la fragilité, avec la fatigue, avec plein d'autres aspects, c'est compliqué. C'est compliqué de dire ça sans avoir vécu l'aventure. Je comprends les deux points de vue. Je pense qu'Adja a bien fait de ne pas prendre l'appel si pour elle, elle sentait que c'était compliqué. Par contre, je pense que c'est une erreur de l'avoir dit à voix haute. Et je comprends aussi ceux qui en ont besoin et que ça booste, comme Alexandra, par exemple. C'est tout à fait compréhensible aussi, parce que c'est plus d'affect, plus de machin. Donc, c'est honnêtement, je pense que sans le vivre, c'est très difficile de prendre position.
Féloni ?
Je pense pouvoir dire avec certitude quand même que j'aurais pris l'appel. J'aurais adoré avoir un petit message de ma meilleure amie. Je suis certaine que ça m'aurait reboosté pour la suite, même si j'avais mangé avant, etc. C'est toujours un petit plaisir, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à Adja, c'est clairement un suicide social. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est dévoilée devant tout le monde. C'est une grossière erreur. Vraiment, c'est limite honteux parce que juste... Mais c'est ça, je comprends absolument pas pourquoi elle a fait ça. C'est-à-dire qu'elle pouvait juste ne rien dire ou dire qu'effectivement, voilà, elle était un petit peu faible sportivement. Mais dire qu'elle a fait exprès de saboter l'épreuve, c'est pire que de dire qu'elle a été faible. C'est une pure catastrophe parce que là, déjà, qu'elle se met mal avec son équipe, on a vu que Joaquina a été clairement remontée contre elle. On ne sait pas si ça va forcément frictionner entre les deux. Je ne pense pas. mais déjà qu'elle se met à dos son équipe. En plus, elle montre clairement son caractère un petit peu égoïste à l'équipe adverse, et je pense que ça sonne très mauvais pour elle pour la suite.
Clément ?
Moi, je rejoindrais plus Freeze. Je pense que j'appellerai pas mes proches. Enfin, en tout cas, je me battrai pas. Je me battrai plus pour une assiette de pâtes que pour le téléphone, quoi. Et à la place d'Adja, par contre, je pense que j'aurais une idée de lieu avec mon équipe. Bah, moi, j'en veux pas de l'appel. Mais du coup, en toute façon, ça m'aurait arrangé parce que j'ai pas de force dans les bras. Du coup, je pense que j'aurais pu quitter facilement, rapidement le truc. Mais oui, il faut absolument pas le dire. Et je pense que Denis a un peu influencé le truc pour faire du drama. Adja, t'es pas méritante, quoi.
Oui, ça, je suis assez d'accord. L'insistance de Denis sur justement cet abandon à moitié, j'ai trouvé ça un petit peu discutable parce que qui pose la question à Adja, c'est évidemment légitime, encore que, mais qu'il insiste auprès de ses coéquipiers en disant qu'est-ce que vous pensez en gros d'Adja, c'est quand même un peu faussé la donne, je trouve. Elle avait pas besoin de ça. Je trouve que, comme dit Felloni, elle s'est déjà un peu assez sabotée. Donc c'est un peu délicat, je trouve. Je comprends qu'il rebondisse là-dessus parce que c'est quand même un fait de jeu assez important, mais est-ce que c'est vraiment impartial? Je sais pas.
Moi, devant l'écran, j'avais l'impression justement que Adja a dit ça vraiment sans... Elle a pas réfléchi, en fait. Elle a dit ça très spontanément, sans penser à mal. C'est qu'elle était vraiment dans sa coquille, dans sa bulle, où elle se dit « Non, ça va me faire du mal. » Donc, elle a pas eu cette pensée forcément collective. Et surtout, ce qu'a très bien dit Felloni et ce que les autres ont très bien dit aussi, c'est que, voilà, il faut pas le dire publiquement devant tout le monde. Bon, là, visiblement, les Rouges n'ont pas l'air de l'avoir trop mal pris. Mais voilà, c'est parce qu'elle est quand même bien intégrée, parce que sinon c'est quelque chose. Et je pense que Denis ait autant insisté là-dessus, je pense que ça aura possiblement des conséquences dans les prochains épisodes.
Oui, c'est possible, parce que c'est quand même assez rare d'avoir une candidate aussi peu consensuelle. Clairement, elle aurait pu dire « moi je veux pas l'appel, mais je vais tout donner pour l'équipe », etc. Là, elle était clairement à l'opposé de ça. On sait que le moindre petit truc peut avoir un impact assez fou, donc c'est sûr que ça va revenir sur le tapis. Enfin, je vois pas comment, avec l'insistance que ça a eu en plus sur le montage, je ne vois pas comment ça pourrait être oublié du jour au lendemain.
Mais je pense que ça peut être aussi joué aux ambassadeurs. Ça. Genre, je suis dans l'équipe adverse, elle t'a empêché de rappeler ton fils, quoi. Donc, bon.
Ouais, complètement. Ça peut être un argument massue. Ouais, c'est clair.
Alors. Donc l'épreuve terminée, donc on a la partie appel qui dure très longtemps.
Ah.
Bah c'est en général là, c'est tout le monde où est allé aux toilettes, où est allé checker les réseaux sociaux, comme ça, parce que c'est vrai que c'est une partie qui traîne un peu beaucoup en longueur. Je pense qu'aussi qu'il y a pas mal de gens du public qui se retrouvent aussi là-dedans, à qui ça plaît. J'ai l'impression qu'ici, c'est pas trop votre cas.
Non, clairement. Là en plus, j'ai trouvé ça. Alors. La partie vraiment appel n'était pas trop longue. Je me souviens de saisons où ça durait presque la moitié de l'épisode. Là, ça a été, je vais pas dire expéditif parce que c'était quand même pas vraiment ça, mais ça allait encore. Mais par contre, il y a eu toute la phase avant l'épreuve avec justement des petits teasers, etc. Alors ça, j'ai pas compris non plus parce que je trouve que les appels sont déjà suffisamment pénibles à vivre pour qu'on ait pas en plus la bande-annonce des appels. J'ai pas trop compris l'intérêt. Alors pour les candidats, je veux bien parce que ça donne envie, ça motive, etc. Mais c'était clairement dispensable pour les spectateurs. Donc s'ils commencent à faire des teasers sur ce moment-là, qui est quand même un moment assez pénible à vivre en général, je pense que ça va être compliqué, quoi. Donc ouais, clairement un moment, on sait qu'on va y avoir droit, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir à ce moment-là.
Alors, donc ensuite on passe sur des scènes de camp. Donc beaucoup de survie hein, sur cette épreuve. Et surtout un duo de choc entre les deux anciens de la tribu rouge, qui sont Sébastien et Fabrice, et qui s'appellent genre Gadinette et je sais plus, du coup, enfin, et un truc comme ça, quoi. Et
Galipette, non. Bon, chat, en tout cas.
Et surtout, c'est qu'on voit une très bonne vision stratégique donc, de Sébastien, puisqu'il ramène beaucoup de crabes. Et lui, en gros, sa stratégie, c'est de faire du mark en moins bien, c'est-à-dire, c'est la stratégie de l'estomac, c'est-à-dire, réfléchissez avant de vous éliminer, parce que c'est quand même moi qui vous produit de la bouffe, quoi. C'est moi qui vais chercher les crabes, c'est moi qui vous nourris. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette stratégie, Felloni ?
Bah, les deux, j'ai un petit peu de mal à les cerner. Hein. Honnêtement, je sais pas trop quoi penser d'eux. C'est vrai que Adrien directement, bon bah voilà, il est directement catégorisé un petit peu comme le stratège en carton. Mais c'est vrai que les deux sont peut-être un petit peu plus subtils. Mais je ne pense pas qu'ils feront quelque chose de particulièrement intéressant sur la suite de l'aventure. Pour le coup, je pense plutôt que c'est Laurent peut-être qui va briller de par son analyse du jeu. Je pense qu'il peut être très très intéressant, Laurent, mais les deux, Galinette et Cafougnette, honnêtement, ils m'inspirent rien. Et je ne pense pas qu'ils feront quelque chose de particulier, parce qu'en plus, on l'a bien vu, Sébastien était totalement réfractaire aux stratégies d'Adrien. Voilà, c'est ça, il va voter au mérite, donc je vois pas pourquoi il commencerait à faire des stratégies. Je pense que c'est surtout une petite blague qu'ils ont fait entre eux et que ça ira pas plus loin que ça.
Freeze, du coup.
Oui, bah, je suis assez d'accord avec Felony. Je pense que c'était un petit peu du remplissage rigolo. Voilà, le petit duo, la petite musique, le petit duo comique, Laspalès et Chevalier, là. Mais au niveau du jeu, bon, vu les deux candidats, je pense pas. Encore Laurent, effectivement, a peut-être un petit potentiel un peu plus intéressant. On sent qu'il a quand même des réflexions, mais qu'il les met pas encore en pratique. Mais au moins, il a des réflexions. Seb, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de réflexions. Je veux pas être trop méchant, mais on sent quand même que le garçon est un peu limité à ce niveau-là du jeu. Donc, le duo, voilà, c'est rigolo, mais je pense pas que ça aura une grosse influence sur le déroulé de la saison. Je peux me tromper, mais honnêtement, j'ai pas l'impression.
Alors, est-ce que entre les deux épreuves, est-ce qu'il y a quelque chose vous qui vous a marqué à part peut-être quoi les aventuriers qui ont faim? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui a attiré votre attention?
Pas vraiment. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu juste ce binôme un peu drôle, mais bon, après, moi je suis pas trop d'accord. Je pense quand même que le duo va rester longtemps, mais pas forcément prendre les rênes de la strat. Genre, ils vont pas se voter comme juste un duo, quoi. Et sinon, ils ont cherché de la bouffe, etc. Je pense que voilà, au bout d'un moment, ils vont réussir à trouver quelque chose. C'est vraiment faut que c'est du remplissage, quoi. Pardon.
Ouais, vas-y, vas-y. Il y a Icarou sur le chat qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'effectivement, il y a eu une grosse insistance au niveau du montage sur la faiblesse de Dorian, qu'on a vu avoir des gros coups de mou, des grosses fatigues. Voilà, c'était un peu inquiétant. On a même pensé à un moment qu'il allait abandonner. Je ne sais pas si c'est innocent. Là aussi, est-ce que c'est du remplissage ou une espèce de faux suspense, ou est-ce que ça annonce quelque chose d'un peu plus compliqué pour lui pour la suite? Les deux options sont possibles, mais c'est vrai, je suis assez d'accord. C'est revenu assez souvent et assez longuement. Donc, à suivre, à suivre, à suivre. Parce que ça serait quand même une grosse perte pour le jeu, parce que c'est quand même un des personnages les plus mis en avant. Donc, voilà, il faut quand même garder ça en tête.
Non, je pense pas qu'il partira Dorian. C'est un petit peu comme quand Claude était un petit peu en difficulté. C'est un petit peu la même chose. Ils nous font peur, mais il partira pas, c'est sûr et certain.
C'est possible, oui, c'est une espèce de faux suspense,
C'est
comme
ça.
pour le conseil.
Oui.
Surtout que Félonie, je crois savoir que Dorian est un peu ton chouchou de cette saison.
Ah bah oui, donc là, s'il part, je pars aussi, clairement.
Revoir.
Ensuite, on va passer à l'épreuve d'immunité, donc l'épreuve qui est un classique, on va dire un peu revisité, c'est-à-dire l'épreuve de la boue. Où il fallait utiliser des candidats comme récipients pour prendre de la mettre dans des seaux et en faire
La
des.
phrase est folle.
Voilà. Et moi, enfin voilà, tout ce que je voulais dire, c'est vraiment l'épreuve pour faire bander les darons qui regardent Koh-Lanta, parce que t'as toujours des gros plans sur les femmes dans la boue, donc forcément des gros plans sur les seins, des gros plans sur les fesses, les gros plans sur ce genre de trucs et. Flemme, énorme flemme quoi sur cette épreuve. À chaque fois, c'est le truc un peu facile. Bah, je sais pas ce que vous avez pensé de cette épreuve, mais moi ça m'a carrément gonflé. Clément, tiens.
Bah moi en vrai j'ai bien aimé l'épreuve. Je l'ai trouvé très drôle et Adja, je trouve que cette fois-ci elle a beaucoup plus géré sur ce qu'elle a répondu à Denis la première fois. Genre je pense que c'était c'est en vrai c'est vrai ce qu'elle dit. Je pense qu'elle est sincère pour le coup que ouais c'est une handballeuse. Elle doit mettre la pression à ses adversaires, elle doit être contente quand il y a un tir qui rate. Hein, donc, je pense qu'elle a beaucoup plus géré ça. Et en vrai, l'épreuve de la boue, en général, j'aime pas trop, mais là, je trouvais ça sympa que j'aime bien les épreuves où en fait, il y a plusieurs tâches à faire. En fait, chacun fait sa tâche. Comme à Survivor, où il y a souvent un puzzle pour finir, là, ce serait bien qu'il y ait plus d'épreuves où il y a vraiment un truc à finir, plutôt que juste passer une ligne d'arrivée.
Félonie, tiens, même question.
Bah, c'est assez intéressant ce que tu dis, mais personnellement, je suis assez pointilleuse sur ça et je ne l'ai pas remarqué. Après, c'est vrai que j'étais un petit peu occupée également à tweeter, donc je ne sais pas si j'ai loupé certaines scènes un petit peu dérangeantes, on va dire, mais je ne l'ai pas spécialement remarqué en tout cas. Épreuve mythique, hein, toutes les années, on y a droit à la boue, enfin bref, c'est toujours assez cocasse, à la fin, on les voit tous complètement peinturlurés, quoi. Donc non, c'était sympa, c'était gentillet, on va dire, rien de plus.
Prise.
Oui, bah moi je suis plutôt de l'avis de toi, Damien. Je trouve l'épreuve vraiment incompréhensible, et visuellement et au niveau du jeu, je vois pas trop ce que ça amène. Là, ils ont rajouté des règles, des machins. Je trouve que ça devient un bordel sans nom avec juste de la boue au milieu, histoire qu'on ait encore l'épreuve avec de la boue. Donc bon, pas incroyable. J'ai bien aimé par contre la fin. J'ai trouvé la fin beaucoup plus intéressante avec les cibles et le fait que l'équipe, comme dit Clément, participe chacun un peu à son niveau à faire des projectiles pour que d'autres envoient, etc., etc. Ça, la mécanique était pas mal. Du coup, on se demande un peu à quoi ça servait la course au préalable. C'était pas forcément indispensable. Et je suis très heureux de la fin de l'épreuve avec justement Adja qui monte un peu en pression et qui trash talk un peu l'équipe d'en face. J'ai trouvé que ça donnait un peu de saveur à l'épisode qui en manquait quand même cruellement. J'ai beaucoup aimé moi ce qu'a fait Adja. Je trouve que c'est un truc que peu de gens font, mais que moi j'aurais tendance à faire aussi, d'essayer un peu de déstabiliser, de voilà, enfin c'est normal. On parle souvent de l'aspect sportif de Koh-Lanta, ça fait aussi partie du sport, de déstabiliser, de gueuler, de crier, de pas être content, de décourager l'adversaire, etc. C'est quelque chose qui me paraît logique. Alors effectivement, dans une saison un peu aseptisée, ça détonne, mais heureusement qu'Adja était là, parce que c'était naturel, spontané. Et puis ça reste du sport, ça reste une épreuve, donc voilà, j'ai trouvé ça très très bien. J'espère que ça lui portera pas préjudice, parce que ça fait beaucoup sur cet épisode pour elle, mais honnêtement, non seulement ça me choque pas, mais c'est quelque chose que j'ai envie de voir plus souvent. Je trouve que ça amène vraiment de l'attention, ça amène de la rivalité, ça pousse un peu les gens vers le haut, et j'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, donc big up Adja, et continue de tracher les autres, c'est ça qu'on veut.
Bah, là, tu m'as fait une transition toute trouvée, Freeze, parce que je comptais justement parler de ça. C'est-à-dire, c'est quoi ces aventuriers qui disent être des compétiteurs et qui peuvent même pas encaisser un peu de trash talk, franchement. Surtout que là c'était, enfin, on sentait qu'Adja, c'était, je suis même pas sûr qu'elle l'ait fait exprès, en fait. C'est qu'elle était, encore une fois, je pense qu'elle est dans son truc, qu'elle est dans la compète, et qu'elle était heureuse, justement, que Alix, je crois que c'était Alix, justement, qu'elle ouais. s'est lancée. C'est ça que je comprends pas, c'est vraiment, il faudrait que même dans le sport, ce soit complètement lisse, et je suis entièrement d'accord avec toi, Freeze, c'est que le trash talk, eh ben, ça fait partie du sport, ça fait pas, c'est marrant d'avoir un petit peu de chambrage comme ça, et c'est dommage, il y en a assez peu dans Koh-Lanta, et je trouve que ça amène quelque chose. Du coup, je vais poser la question à Félonie d'abord et à Clément ensuite. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, du trash talk dans cette épreuve d'Adja et compagnie? Félonie.
Bon, bah, je vais pas me faire des amis encore. À chaque fois que je viens sur le podcast, j'ai jamais le même avis. Bah, moi, je trouve que c'est pas correct, en fait. Enfin, effectivement, c'est clair que c'est assez spontané, en fait, ce genre de remarque. Je pense qu'à mon avis, Adja, c'est quelqu'un de très spontané et qui dit les choses comme elles sont, quoi. Mais personnellement, je trouve pas ça correct dans le sens où bah, j'ai envie de te dire, juste concentre-toi sur ton équipe, fais ton truc de ton côté. Enfin, t'es pas non plus obligé de te réjouir à chaque fois que Alix fait quelque chose. Enfin, moi, je sais que ça m'aurait également énervé, alors peut-être pas autant que Alix, mais bon, ça m'aurait quand même énervé, et honnêtement, je trouve pas ça correct. Enfin, en fait, je comprends pas ce que ça apporte au jeu, le trash talk, parce que, certes, voilà, Adja, c'est spontané, elle le dit ça comme ça, mais en fait, je vois juste pas ce que ça apporte, à part juste de la négativité, donc non, je suis pas d'accord.
Bah, ça la motive elle, ça encourage son équipe, ça déstabilise l'autre... Si, ça a un intérêt évident, hein, au terme de motivation et d'apport perso, c'est dingue.
Ouais, je suis pas totalement d'accord, en fait. Je pense que justement, elle devrait plus se concentrer sur ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de l'épreuve, plutôt que sur les autres, en fait, parce qu'au final, ça leur fait perdre du temps.
Je pense que ça l'aide aussi à se concentrer, hein. C'est pas, tu vois, c'est pas du trash talk, c'est pas des insultes ou quoi. Le fait d'être content que l'autre rate, ça la motive elle et ça lui permet de se concentrer sur son épreuve aussi. Après, je suis d'accord, hein, c'est discutable. Moi, je trouve ça super, mais parce que voilà, j'ai fait du sport, j'en suis suffisamment pour savoir que c'est un vrai vecteur de motivation, mais je comprends que ça puisse déranger. Mais il faut essayer de se mettre à la place l'un de l'autre, tu vois, et je trouve que ça apporte autant que ça déstabilise l'autre.
T'as fait quoi comme sport, toi, Freeze?
J'ai fait un peu de tout, je fais du badminton, du foot. Alors badminton, trash talk, c'est léger quand même, hein, je vais pas vous mentir. Mais en foot, évidemment, enfin n'importe qui a fait du foot, du rugby, du basket, sait très bien que ça y va sur les terrains et que c'est pas ni du manque de fair play, ni de la mauvaise foi, tant que ça reste dans un cadre voilà, de motivation, d'encouragement personnel, même si c'est à l'encontre de l'autre équipe, ça amène un surplus d'énergie, un surplus de motivation qui est quasiment indispensable.
Félonie, toi, tu as fait du. Est-ce que tu as déjà pratiqué des sports ou collectifs ou individuels comme ça aussi, où tu aurais pu avoir ce genre de situation?
Pourquoi tu me poses la question? Je vais me ridiculiser. J'ai fait de l'équitation, mon cher. Ouais. Et j'ai fait également de la GRS avec les petits.
Est-ce que t'as trash talk les chevaux?
Non, je n'ai pas trash talk. Voilà, je n'ai pas une grande expérience sportive.
Ah, mais il n'y a aucune honte de ce point de vue, Félonie, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et ouais, je pense qu'en GRS, donc c'est gymnastique rythmique et sportive, si je me rappelle bien.
C'est ouais, ça c'est ça, avec le bâton que tu fais voler, là.
En fait, c'est tout ce qui est bâton, il y a le ruban, il y a le ballon, il y a pas mal de trucs comme ça aussi, ces trucs qu'on voit au JO par exemple.
Ouais, c'est ça. J'ai fait de la danse aussi, classique. Mais bon. On sait pas trash talk non plus, quoi. Non, c'est pas de la merde. Ouais,
c'est pas exactement, c'est pas le même univers.
C'est ça.
Clément, tiens, même question.
Ben moi j'ai pas fait beaucoup de sport. Donc je connais pas trop. Quand je faisais foot au lycée, j'allais chercher les gourdes de l'équipe. Mais sinon, comme j'ai fait beaucoup d'escrime quand j'étais plus jeune, ben moi j'étais hargneux, hein, clairement. Genre, je pense que déjà, je comprends complètement. Hein, enfin, quand tu marques un point, par exemple, en escrime, tu cries. Genre, c'est pour impressionner. C'est une bataille de coq, un peu, tu vois. Genre, et je pense que Adja, elle l'a fait tellement spontanément qu'on peut pas le vouloir. Et c'est pas comme si elle lui. Et que comme ça a été dit dans les commentaires, c'est pas comme si elle avait dit « Oh, vous êtes tous nuls », elle a vraiment dit « Ouais ». Genre vraiment, juste le mot « Ouais », c'est plus... Moi, je l'ai plus compris pour l'équipe, son équipe, que pour l'équipe adverse.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est à peine du trash talk, quand même.
Vraiment, genre, pour moi, c'est juste elle essaye d'encourager son équipe en faisant ça, en fait. Du coup, encourager Brice, du coup.
Ouais. Et c'est un peu étonnant, d'ailleurs, de voir la réaction d'Alix, qui est quand même coach sportive, donc qui normalement sait un peu ce que le sport peut produire en termes d'énergie, de motivation, de machin, qui est déstabilisé juste parce que Adja dit yes, yes. C'est quand même, là, il va falloir rebosser un peu le diplôme, je pense, parce que c'est quand même très, très étonnant.
Après, c'est le fait aussi qu'Alix, dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle est pompier, je crois, et que vraiment, elle est fan de CrossFit. Et du coup, c'est pas forcément un sport collectif, c'est vraiment la musculation, t'es seul avec tes...
Il n'y a pas d'adversité, ouais.
Voilà. Donc, oui, c'est tout cet aspect vraiment mental, psychologique qu'on peut retrouver dans certains sports collectifs ou même individuels, comme Clément, toi, tu parlais de l'escrime. Voilà, je comprends l'incompréhension d'Alix. À ce point de vue, mais je comprends complètement Adja, et surtout, je crois que Adja, elle joue défenseur ou zeuse, je sais pas comment on le dit. Elle joue défense donc dans son équipe, et qu'elle dit clairement qu'elle aime bien faire péter un câble à l'attaquante, qu'elle aime bien aller au contact et tout, donc c'est raccord avec sa personnalité. Donc,
bah, au hand, c'est vénère, hein, le trash talk, ça peut aller assez loin même des fois.
Ouais, pourtant.
Vas-y.
Non, je dis pourtant, c'est pas le sport, ok, c'est un sport qui a quand même une image assez lisse, pourtant, mais...
Ah ouais, mais ça l'est pas. Enfin, à haut niveau, c'est très dur. Hein. C'est vraiment... Là, on n'est pas sur du yes-yes, on est sur vraiment du tirage de cheveux, des insultes et des trucs assez costauds, parce que... Ah ouais, mais c'est que dans la déstabilisation, hein. Surtout chez les défenseurs. Mais il y a Hélène qui dit quelque chose d'intéressant. Pour une fois, donc on va le soulever, qui dit qu'effectivement, Alix, elle a l'air un peu intimidée par Adja. Je pense que le statut de sportive professionnelle, je vais pas dire que ça la complexe, mais effectivement, on sent quand même un certain respect, voire une certaine méfiance par rapport à ça, et c'est assez intéressant à voir comment ça va se concrétiser à la merge. Est-ce qu'elles vont passer au-delà, est-ce qu'elles vont en reparler, etc. Mais le duo qui est vraiment pas sur les mêmes valeurs, entre guillemets, même si le terme est un peu fort, je pense que c'est quelque chose qui promet beaucoup pour la suite, si elles y vont, en tout cas.
Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose encore à rajouter sur Adja, sur le trash talk, sur toute cette épreuve et son dénouement?
Les rouges ont gagné.
Oui, c'est un petit détail.
Ouais, donc victoire des rouges, où en fait c'était comme une, enfin j'allais dire dans une poulie, c'est comme un tourniquet en fait. Il fallait lancer des projectiles donc d'herbe et de boue pour faire tourner le tourniquet et puis qu'il puisse tomber en fait. Donc là forcément, Adja était bien meilleur au lancer. En tant qu'handballeuse, c'est pas surprenant. Et donc, victoire des rouges, et les jaunes vont au conseil, alors que la semaine dernière, on pensait que c'était l'équipe qui serait peut-être la plus forte, du moins avec le plus de skills sportifs. Et au final, donc, les discussions sont allées dans deux sens, c'est-à-dire une qui voulait jeudi et l'autre Aubin. Et mine de rien, on a vu quand même des choses stratégiquement assez intéressantes, notamment donc, beaucoup d'hésitations. Est-ce que quelqu'un justement veut en parler ? Est-ce que vous auriez préféré plutôt Jody ou Aubin, puisque c'est Aubin qui a été finalement éliminé ? Clément.
En vrai, je sais pas trop. J'aime beaucoup Aubin. J'aime beaucoup Aubin, sauf que j'ai trouvé la façon dont il sort très intéressante, dans le sens où toutes les couleurs, presque quasiment toutes les couleurs, à part Jody et les nordistes et ceux de l'Est ont. Sont tous les deux couleurs se sont mélangées en fait. Genre Angélique n'a pas voté avec Lola par exemple, Laurent et Loïc ils n'ont pas voté avec Alexandra en fait. Ils ont tous leur propre avis je trouve et ils font tous leur truc en connaissance de cause je pense. Et du coup je pense que les couleurs elles comptent vraiment plus à l'heure actuelle, en tout cas plus trop. Mais je préfère quand même que Jody sorte parce que je préfère Romain, même si j'aime bien Jody personnellement.
D'accord. Félonie.
Jody ou Aubin, sans hésiter Jody qui sort. Elle est beaucoup moins intéressante qu'Aubin. Aubin, au moins, nous avait fait bien rire avec son collier d'immunité. Elle dégageait Mathieu. Franchement, c'était un très bon move. Là, Jody est inintéressante. Enfin, on dit ça, bien sûr, dans le cadre du jeu, dans le sens où on l'a pas vu faire quelque chose de particulier, quoi. C'est vrai qu'Aubin est... Bon, au début, quand même très effacé, mais finalement, a commencé à s'imposer avec son collier, justement. Et c'est allé beaucoup mieux par la suite. Donc, non, clairement, Jody aurait dû partir. Après, effectivement, il y a une sorte de débat, j'ai vu, dans le sens où les filles sont en supériorité numérique et donc apparemment ce serait plus intelligent d'éliminer un garçon pour conserver cette supériorité. Moi je suis pas du tout d'accord parce que on l'a vu justement dans plusieurs saisons de Koh-Lanta, c'est souvent des alliances mixtes. Enfin oui, effectivement il y a toujours un petit duo de filles, un petit duo de garçons, bref. Mais généralement je trouve pas que ça prenne le dessus sur toutes les aventures de Koh-Lanta. Enfin je trouve pas qu'il y a vraiment une grosse scission entre les filles et les garçons. Donc, je pense que clairement, elles auraient pu dégager Jody sans remords, quoi.
Freeze.
Oui, bah je rejoins Félonie. Moi, je suis assez triste même du départ d'Aubin. Non seulement parce qu'il nous a fait vivre un des meilleurs conseils de la saison et peut-être même de ces dernières années, avec l'élimination de Mathieu qui était quand même très jouissif. Donc rien que pour ça, j'aurais aimé le voir un peu plus loin, voir s'il pouvait rééditer une performance comme ça avec ou sans collier. Donc triste de perdre Aubin. Et puis surtout encore plus triste de voir Jody rester parce qu'effectivement je trouve qu'elle apporte rien du tout ni au jeu ni à l'aventure ni à quoi que ce soit. J'ai beaucoup de mal avec elle, je la trouve d'une passivité incroyable. On l'a vu au moment des discussions entre les deux clans entre guillemets, elle était isolée et puis elle attendait que ça passe en touchant du bois en gros. Bon, c'est passé. À quel prix, je ne sais pas, parce que conserver Jody dans une équipe, c'est pas forcément... Bon, alors au niveau du camp, ça a l'air d'aller, mais après, au niveau des épreuves, c'est quand même pour l'instant très très faible. Là où Aubin pouvait peut-être amener des choses un peu plus intéressantes, même si c'est pas non plus un énorme compétiteur. Mais ouais, c'est un peu décevant. Après, c'est pas illogique. Effectivement, je pense qu'il y a quand même eu... Ils le disent après, sur les justificatifs des votes, il y a eu pas mal de craintes qu'Aubin refasse justement un coup un peu stratégique comme il a fait avec Mathieu. Ce que je peux comprendre, je trouve ça normal que Dorian, par exemple, qui est un peu le même profil, élimine Aubin. Ça, je peux comprendre. Après, il y en a, je comprends moins leur intérêt de le virer. Mais c'est pas illogique. C'est triste, mais c'est pas illogique.
Alors, je vois SLZ qui dit quelque chose de très intéressant dans le chat. Il dit « Dorian, en sous-marin, a fait voter Aubin par crainte d'une nouvelle élimination surprise de la part d'Aubin et que ce soit lui qui en fasse les frais, comme avec Mathieu. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu passer souvent parce qu'on a beaucoup parlé du rôle de Laurent. Alors Laurent, qui est un de mes personnages préférés, je dirai pourquoi après. Et pour vous, justement, est-ce que moi, ce que j'ai aimé dans cette élimination, bon, même si j'aurais préféré qu'Aubin reste, c'est que quand on voit les justifications de vote, il y avait de la stratégie, il y avait de la projection.
Oui,
c'est bien. Voilà, d'accord. C'est que par exemple, Laurent dit, Aubin, t'es un petit stratège et justement, je préfère t'éliminer maintenant. Dorian, même chose. Et je voulais savoir justement ce que vous aviez pensé de ça, justement, de tout cet aspect stratégique qu'on voit pas trop, mais dont on sent qu'il est présent quand même, dont on sent que chaque candidat, même ceux qui veulent voter au mérite, ont quand même cette fibre-là. Clément.
Moi, j'adore ça, parce que je trouve que vraiment, chaque candidat de la saison est ouvert stratégiquement. Même s'ils le disent pas, ils le sont. Par exemple, à part peut-être Mathieu, mais ça c'est une autre histoire. Mais genre par exemple, quand on voit l'élimination du coup de Mathieu, on voit les bleus, ils ont complètement compris au bain, etc. Là, je pense que par exemple, on voit Laurent qui fait de la stratégie, qui comprend que c'est dans son intérêt de garder une Jody qui sert à rien, qu'un Aubin qui joue, parce que je pense que Laurent il va se révéler en tant que joueur et du coup il va apporter ça et en fait il préfère être comme Cindy avant, être le seul qui fait la stratégie. Comme ça on le suit lui plutôt que quelqu'un d'autre. Et voilà, et même en fait quand on voyait Jody aller voter, j'ai trouvé un intérêt à Jody dans le sens où elle parle du fait qu'Aubin est le mec le plus faible, mais elle dit aussi en plus Alix elle le défend énormément, donc autant sortir Aubin. Donc je pense que chaque candidat fait sa stratégie et chaque candidat est au moins ouvert à la stratégie et comprend qu'on puisse faire de la stratégie.
Ouais, c'est toujours un peu le même problème, c'est-à-dire que tout le monde dit on vote au mérite, mais au final, l'élimination d'Aubin, elle est stratégique, évidemment. C'est très facile de se cacher un peu derrière cette image de beau jeu, entre guillemets, tout dépend de ce qu'on appelle beau jeu, mais évidemment que là, toutes les décisions depuis le début sont stratégiques, et c'est pas très grave, c'est pas un mot interdit ni sale, mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui ose l'assumer, le seul qui l'assumait, c'était Adrien, et on a vu ce que ça a donné, c'était clairement pas terrible, donc peut-être que ça incite aussi les autres à baisser un peu le pied sur le terme, et à proposer autrement, mais tous les choix sont stratégiques par définition. Mais ça sera intéressant de voir s'il y en a qui l'assument un peu plus. Honnêtement, vu le profil de la saison, je pense que jusqu'au bout, ça va être un peu dans cette grammaire-là. Après, concrètement, tant que les moves sont intelligents, tant que les éliminations sont raisonnées, et justifiées, argumentées, ça reste intéressant. Donc, pourquoi pas.
Mais c'est clair que devant la caméra, c'est très le mérite. Mais bon, quand on se retrouve au conseil, finalement, les langues se délient, on va dire. Après, je pense quand même qu'il y a certains personnages, comme par exemple Sébastien, qui, je pense, restera plutôt sur ses chevaux et ne changera pas de ligne directive. Je pense qu'il va rester à fond sur le mérite. Mais effectivement, par exemple, Dorian, je pense qu'il peut-être dire devant la caméra, effectivement, bah voilà, moi, je joue au mérite, je dégage les gens qui sont nuls, bref. Et derrière, au final, réfléchir un petit peu plus en amont avec ses coéquipiers, de qui on va dégager en fonction des stratégies, etc. Donc, effectivement, je rejoins totalement Freeze. C'est un petit peu dommage qu'il se cache en fait derrière cette image lisse de candidats avec énormément de valeur. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un petit peu toujours la même chose chaque année, quoi. Les candidats ne veulent pas faire de stratégie au risque justement d'être catégorisés directement. Bon, après, on l'a vu avec Adrien, c'était clairement pas une réussite et Adrien a fait du grand n'importe quoi. Mais bon, au moins il a essayé, c'est déjà bien, mais bon, il a mal essayé quand même. Mais voilà, c'est clairement dommage ce qui se passe, et on aimerait bien voir un petit peu plus de stratégie, c'est clair.
Alors, on en avait parlé un petit peu juste avant, mais un personnage, moi, qui s'est un petit peu révélé dans toute sa subtilité dans cet épisode, c'est Laurent. Alors moi, déjà, j'adore ce personnage vraiment de prof baroudeur qui a l'air d'avoir une personnalité comme ça, très, très solaire, le mec a voyagé un petit peu partout, qui a un look et une personnalité qui se détache, qui est très, très attachant. C'est un peu le prof que beaucoup de gens auraient aimé avoir. Et là, je l'ai trouvé extrêmement malin, justement, sur ce vote. Même si, bon, on dit que peut-être il a été téléguidé par Dorian, mais il s'est intelligemment placé. Et surtout, je pense que dans ses justifications, c'est qu'on sent vraiment qu'il a une réflexion peut-être un poil plus assumée que les autres. Freeze, tiens, qu'est-ce que t'en penses de Laurent ?
Ouais, je suis complètement d'accord. C'est la première fois que je trouve Laurent plus intéressant que le personnage qu'on nous a vendu, le côté Indiana Jones, même si c'est rigolo. Bon, voilà, on s'en lasse assez rapidement. Et sur cet épisode, je te rejoins complètement. Je l'ai trouvé un peu filou. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'effectivement on a vu pour la première fois qu'il y avait peut-être autre chose derrière, et que derrière un peu comme on dit l'étiquette mérite, lui poussait un peu la réflexion plus loin, mais sans se griller comme l'a fait Adrien, ou comme l'a fait Ahmad, ou comme l'a fait plein de gens qui se prônent stratège. Je pense que lui il le sait, mais il se donne une autre image, et c'est très intelligent parce que ça lui offre c'est gagnant-gagnant entre guillemets, donc c'est super intéressant, j'ai hâte de voir comment il va évoluer, mais effectivement là en un épisode je trouve qu'il a pris une ampleur très très intéressante.
Félonie.
Effectivement, Laurent semble très clairvoyant dans le jeu, il avait directement remarqué les stratégies d'Adrien. Par contre, je pense quand même qu'on ne devrait pas trop s'emballer sur Laurent. Clairement, là, c'est vrai qu'il semble un petit peu, voilà, très, très à même de comprendre ce qui se passe dans le jeu, mais je pense pas que ça ira plus loin que ça, honnêtement. Après, je pense que c'est des, comment dire, des pensées en fait qu'il a seul, mais je pense pas qu'il fera quelque chose pour retourner le cours du jeu en fait. Donc, effectivement, Laurent s'est un petit peu révélé. Après, j'ai envie de dire, est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que, comment dire, la révélation de Laurent, c'est un gros truc tellement il s'est rien passé durant cet épisode. Donc, bon, je ne sais pas trop par rapport à ça. Je suis confuse par rapport à Laurent. Je m'attends pas à ce qu'il fasse quelque chose d'incroyable en tout cas.
Et Clément ?
Moi, c'est la première fois que j'ai trouvé Laurent intéressant cet épisode. J'ai bien aimé sa réflexion sur Alexandra quand elle dit « moi, ce sera jeudi devant tout le monde ». Donc, il avait dit « oui, je comprends pas pourquoi les voiles s'écartent, etc. » Je le trouve très intéressant, en tout cas, beaucoup plus qu'avant, où je le voyais beaucoup plus en retrait chez les Verts. Et je le voyais même sortir en cas de conseil vert, personnellement. Mais là, je le trouve, voilà, il joue subtilement, en tout cas, beaucoup plus qu'Adrien, par exemple.
Très bien. Eh ben, du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cet épisode ?
Non, juste qu'on espère que ça sera un peu mieux la semaine prochaine. Les épisodes de transition, c'est un peu dur, donc vivement la réunification, honnêtement.
Oui.
Moi, j'ai quelque chose à rajouter, si je peux me permettre. Vas-y. Laurent, du coup, on parlait de lui. Je trouve qu'il a fait une remarque un petit peu déplacée quand il a dit... Oui, les filles ne font rien, elles se cachent derrière Alix, c'est toujours Alix qui fait tout. Alors, Laurent, il est bien mignon, mais en attendant, on ne voit aucun homme faire quelque chose sur ce camp, en fait. Personne ne cherche à manger, personne ne fait à manger, et j'ai trouvé ça très réducteur de dire justement, oui, bon bah, les femmes ne foutent rien, donc allez faire la cuisine un petit peu. J'ai pas du tout aimé cette réflexion, et je la trouve totalement déplacée, en fait.
Bah moi, je suis.
Je suis pas d'accord avec toi parce qu'on l'a vu pas mal chercher les crabes. On a vu Dorian sortir à aller avec les filles en forêt. Par contre, oui, je comprends que si tu trouves la réaction déplacée, mais je suis pas d'accord avec le fait que tu dises que les hommes font rien non plus.
Bah, alors moi, je suis assez d'accord avec Félonie, justement. C'est vrai que l'an dernier, donc, enfin, même, c'est pas l'an dernier, lors de la dernière saison, j'avais été interviewé pour un podcast de Slate qui parle de ça. On avait parlé de représentation genrée sur le camp. Et bon, ça va faire rire les gens, ils vont dire que Damien fait son Damien, mais voilà, je dis quand même. C'est que forcément, on dit c'est que c'est les hommes qui vont partir, je sais pas où, chasser ou construire la cabane et tout, et c'est les femmes dont on dit qu'elles doivent faire la cuisine, qu'elles doivent être dans l'entretien un peu du camp. Et la phrase de Laurent, pour moi, ça rentrait vraiment là-dedans, c'est-à-dire que pour lui, c'était... de ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments du contexte, on ne sait pas si effectivement les hommes ne bossaient pas, parce que évidemment on ne voit qu'un montage, mais c'est vrai que la phrase de Laurent pouvait être prise dans ce contexte-là, et effectivement je suis d'accord avec Félonie, c'est que oui, c'est peut-être un petit manque de classe là de la part de Laurent sur ce sujet-là. Frise, qu'est-ce que t'en penses toi?
Bah, j'en pense pas grand chose, je sais pas trop en fait, on n'a pas tous les éléments pour juger. Soit effectivement il y a des éléments qui ne sont pas montrés parce que pas très intéressants, sur l'absence d'activité sur le camp de certaines personnes, ou alors effectivement c'est Laurent qui est un peu on va pas dire sexiste, mais en tout cas maladroit, on va lui accorder le bénéfice du doute, mais on n'a pas tous les éléments ni la vie quotidienne vraiment suffisamment montrée pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. La phrase est pas ouf, ça je suis d'accord, quelle que soit la vérité. Après, est-ce que c'est concret, est-ce que c'est juste un peu honnêtement c'est impossible à dire, donc à surveiller, mais j'ai pas d'avis particulier.
Ok, bah du coup, si personne n'a rajouté, je propose qu'on passe tout de suite à la séquence de Freeze.
Ah.
Le Kikadi, et avec son magnifique jingle que je vais vous mettre tout de suite.
C'est l'heure du
Kikadi. On ne s'en lasse pas. Le Kikadi, donc, avec quasiment que des nouveaux. Je crois que personne n'a de points au classement, donc ça va être l'occasion de rejoindre Jade, qui est en tête assez largement. Pour l'instant, mais la saison est encore longue. Alors, on va commencer avec la première phrase qui, attention, est en latin. Ad vitas aeternam.
Laurent,
effectivement, qui parle latin, mais qui fait quand même des petites fautes de latin, mais c'est pas grave.
Juste par contre, tu peux me dire les règles, parce que j'ai jamais...
C'est Kikadi. Il faut trouver Kikadi. C'est dans le nom du truc.
Okay.
Voilà. Ça, j'aurais pu expliquer les règles. C'est des phrases qui ont été dites sur l'épisode. Il faut essayer de retrouver l'auteur de ces phrases-là. Voilà.
Ok, ça marche.
Donc c'était bien Laurent pour la première. Ad vitas aeternam. La seconde phrase. Donc qui a dit J'étais dans l'équipe des losers. Ah, c'est moins facile, ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé sur le chat.
Angélique.
Oui, bah, t'as triché, mais c'est bien, ça fait quand même un point. C'est bien Angélique qui se plaint quand elle a faim, notamment au téléphone, je crois, qui se plaint qu'elle était dans l'équipe des losers et de son parcours un peu compliqué. Et enfin, la dernière, qui est ma préférée. Attention, ça va être... je vais essayer de bien le faire, mais ça va être compliqué. Enculé !
Sébastien.
Voilà, le fameux Sébastien, quand le crabe lui échappe, qui nous lâche cette masterclass. Voilà, bah bravo Clément, hein, c'est un sans faute. Sans faute
pour toi. Vous avez pas vu, mais j'ai fait un dab.
Bravo, ouais, tu peux dabber. Bravo.
il y a mon frère qui vous passe le salam alaikum.
Eh ben, salam alaikum, frère de Clément.
Salam alaikum, le frère de Clément. Et à ta maman aussi.
Non, il est parti. Oui, non, mais.
Bah, bonjour quand même.
Je dirais.
Du coup, Clément rejoint Jade en tête du classement avec 3 points.
Je ne sais plus, je ne suis pas à jour du tout, je vous dirai ça la semaine prochaine. Non, je crois que Jade a 4 points, si je ne dis pas de bêtises, mais je suis.
Mais il vient plus
souvent aussi. C'est vrai, c'est pas du tout équitable, mais c'est aussi ça. Le kick a dit.
Bah, du coup, je te remets le jingle.
Ah bah, je t'en supplie.
Ah bah écoute, tiens, bah supplie-moi. Hop.
C'est l'heure du...
Kick a dit. Parfait.
Alors bah, cet épisode touche à sa fin. Ça a été un épisode plus court aujourd'hui vu que c'est qu'il y avait quand même assez peu de choses à dire. Donc je vais remercier Freeze de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Mais pas de quoi. Avec plaisir. Merci à toi. Merci Félonie. Merci Clément. Et puis à très vite.
Merci à Clément qui nous a accompagnés aujourd'hui qui est pour la première fois de la saison.
Merci. Inscrivez-vous à mon orgue. Au revoir.
Un petit placement de produit là.
Et du coup, merci à Félonie. Alors toi, tu es youtubeuse. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Pas sur YouTube, du coup.
Ah, mais oui, quel est le nom de sa chaîne?
Tout à fait, sur la chaîne YouTube Félonie, du même nom. Voilà, et non pas l'interview de Marine Le Pen qui dit Félonie, parce que c'est dans les recherches. Voilà, voilà.
Ah, merde.
Wally Wallou.
Ah, ça, c'est con, ça.
Ouais, c'est pas cool.
Et surtout, si je crois que tu parles pas que de Koh-Lanta, tu parles de quoi d'autre?
Marine Le Pen.
Tout à fait. Oh. Je parle d'Animal Crossing, de séries, de jeux vidéo, un petit peu de lifestyle, un petit peu de tout, ma foi, et vous trouverez sûrement votre bonheur.
Et de code de la route.
Tout à fait, je l'ai raté 5 fois, hein, il faut le mentionner.
Merci Damien.
Du coup... Bah, c'est fini pour cet épisode. On vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7 de Koh-Lanta les 4 terres. C'était Damien et je vous dis à tous bon après-midi, bon week-end et à la prochaine. Ciao!